justice, Alexandre Sanguinet, la croix de Coatzacoalco doit être enlevée.
Son installation est illégale, c'est ce qu'a décidé et jugé la Cour administrative d'appel de Marseille dans sa décision publiée vendredi. Précisément, son installation en 2022 n'est pas conforme à la loi, écrit la Cour, et ce à cause d'une rupture géographique et temporelle. Clémence Gourdon-Négrini.
Double rupture par rapport à l'ancienne croix qui était installée dans le village avant 1905. Premièrement, plus d'une trentaine d'années séparent la disparition de l'ancienne et l'édification de la nouvelle. Deuxièmement, l'ancienne croix était érigée devant l'église alors que la nouvelle est à l'entrée du village. Voilà les deux constats qui amènent la Cour à juger que l'édification d'une nouvelle croix il y a 4 ans ne peut pas être assimilée au simple remplacement de la précédente. Pour ce qui est des exceptions rendues possibles par la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, la Cour estime que les arguments avancés, comme le patrimoine de l'île ou la demande des habitants, ne permettent pas de déroger à l'interdiction.
Et le maire Paul-Antoine Bertolotti a maintenant 2 mois pour se pourvoir en cassation, un pourvoi qui n'est pas suspensif, maire qui n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Toute l'affaire est à retrouver sur ICRCFM et sur nos réseaux sociaux.
Justice encore, Alexandre. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi sur relatif à la justice criminelle.
Et dès hier, les barreaux de Bastia et d'Ajaccio se sont mobilisés dans le cadre d'une journée nationale justice morte. Ces derniers réclament le retrait total d'un texte qu'ils jugent attentatoire aux libertés fondamentales, aux garanties d'un procès équitable. À Bastia, aucune audience ne s'est tenue hier et aucune désignation n'a été assurée, à l'exception de 2 dossiers concernant des mineurs. Pourquoi cette réforme suscite-t-elle une telle opposition? Élément de réponse avec la vice-bâtonnière du barreau de Bastia, Linda Pipperi, au micro de Roland Frias.
C'est un texte qui porte atteinte à l'ensemble des principes fondamentaux de notre droit. Il est vrai que ce pourquoi nous nous sommes mobilisés en première intention, qui était le plaidé coupable, a été abandonné. Il reste néanmoins d'autres dispositions, comme le régime des nullités raccourcis, comme l'épigénétique ainsi que les dispositifs de la généalogie génétique, qui sont des dispositions liberticides et qui sont encore maintenues dans le projet de loi. Donc nous estimons que l'ensemble de ces dispositions doivent être écartées aujourd'hui par le législateur, parce que tout ce qui finalement amenuise les droits de la défense, les affaiblit, rien dans ce qui est proposé ne nous convainc de ce que cette justice sera plus rapide et plus efficace. Elle sera en revanche une atteinte aux droits des justiciables.
La résidence Paesino à Bastia fait peau neuve.
Isolation des bâtiments, modernisation de logements sortis du gaz sont au programme pour un montant global de 28 millions d'euros. 417 appartements dans 30 immeubles sont concernés. Cela concerne quelques 940 habitants. Première rénovation de cette ampleur depuis la construction des immeubles il y a un demi-siècle. Des travaux possibles grâce à la participation de l'Agence de l'urbanisme. Son président, Julien Paolini.
C'est un programme d'une ampleur sans précédent, puisque à la fois réhabiliter plus de 400 logements dans le centre-ville de Bastia, dans les quartiers sud de Bastia, et en parallèle déconnecter l'ensemble de ces appartements du gaz de ville dans le cadre de la politique de programmation pluriannuelle de l'énergie qui avait été négociée en 2023 avec le gouvernement et qui avait conduit à la signature d'un protocole d'accord de 200 millions d'euros avec la première ministre Elisabeth Borne. Et donc c'est la première opération de mise en œuvre opérationnelle de cette négociation qui a été en effet une négociation difficile. On est heureux que ça porte ses fruits aujourd'hui.
Une réalisation pionnière pour Érilia, qui s'engage dans une démarche de sortie du gaz alors que l'île est elle-même tenue à cette sortie à horizon 2038, comme l'explique Frédéric Lavergne, il est directeur général chez Érilia.
La singularité de ce programme de travaux, c'est qu'il est le premier qui va bénéficier de la sortie du gaz et de la déconnexion du gaz de ville. C'est aussi un programme qui traite la rénovation énergétique et tout le confort d'été. Donc en ce sens, effectivement, c'est un des premiers ici en Corse. La climatisation, bien sûr qu'on a tous besoin aujourd'hui de rafraîchissement, mais il existe des procédés de travaux qui peuvent rafraîchir un logement sans alourdir la facture d'électricité. Parce que le principal inconvénient de la climatisation, au-delà du fait que, même s'il y a des débats là-dessus, elle pourrait aggraver, je dirais, le changement climatique, c'est coûteux. Voilà. Et donc, ce que nous posons n'est pas coûteux, brasseur d'air notamment, occultation des ouvertures.
Des travaux sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure en compagnie de l'invité de la rédaction, Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat et ancienne ministre du logement. Rendez-vous à 8h moins le quart.
Le Sporting devant la DNCG fédéral ce mardi.
Le président Claude Ferrandi et l'un de ses associés sont à Paris, en effet, pour présenter un budget de quelques 9 millions d'euros pour la saison à venir en Ligue 3. Budget qui prend en compte le fonctionnement du centre de formation entre 1 et 2 millions. Un prévisionnel construit en partie grâce au départ et à l'aide allouée par la FFF, 450 000 euros, ou encore l'investissement récent des actionnaires Bastiais, avec un déficit structurel évalué à 3 et 4 millions d'euros. Entre 3 et 4 millions d'euros, est-ce que le Sporting réussira à convaincre la DNCG? Réponse Isabelle donc en fin d'après-midi.
Corsica Gran a célébré ses 10 ans au parc de Saletsch à Montigello.
Cette marque propriété de l'Office de l'Environnement et gérée par le Conservatoire Botanique fonctionne comme un label qui a pour vocation de valoriser et de soutenir la production locale de végétaux endémiques. Née un an après l'apparition de la Xylella fastidiosa, la marque répondait alors à un véritable besoin de protection. Aujourd'hui, c'est pour faire face aux sécheresses que le retour aux plantes locales est nécessaire. Pierre Pasqualini.
La psychose engendrée par la Xylella en 2015 a éveillé les consciences sur la nécessité d'exploiter les espèces endémiques, se souvient le vice-président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, François Casabianca.
Ça a été un électrochoc pour des secteurs professionnels. Et puis, parallèlement, l'émergence de Corsica Gran comme une solution visant à profiter de l'insularité pour pouvoir sécuriser la fourniture de plants certifiés.
Pour Corsica Gran, l'objectif aujourd'hui est de gagner des marchés, notamment publics, comme l'explique le chargé de mission au Conservatoire botanique national de Corse, Lou Barbe.
On aimerait que la marque ne reste pas à des niveaux confidentiels, mais qu'on puisse la trouver vraiment dans toutes les grandes jardineries et qu'elle soit exigée régulièrement dans les projets de commande publique. On sent dans la commande privée une inflexion positive sur ces choses-là. On sent que les gens sont un peu plus réceptifs à ce discours. L'autre levier qu'on a besoin d'actionner, c'est la commande publique.
Les professionnels se tournent plus volontiers vers les plantes endémiques, mieux adaptées aux périodes de sécheresse. C'est le constat de Jonathan Béchou, pépiniériste labellisé.
On a de plus en plus de professionnels qui vont faire des zones peu arrosées ou pas du tout arrosées. Ils plantent à l'automne donc des espèces comme du romarin corse, immortel corse, santoline corse, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ces jardins-là voilà, n'ont plus besoin d'arrosage.
Corsica Gran a donc fêté ses 10 ans en affichant de grandes ambitions pour l'avenir.
7h et un peu plus de 7 minutes.